Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant vieillir et quelques témoignages authentiques. C'est l'étude numéro 3. Nous devons garder la foi. La foi est une idée positive. Entre autres, la foi n'est autre chose que l'optimisme. Chers amis, à mesure que nous vieillissons, il est inévitable que nous devenions de plus en plus infirmes. C'est un fait. Et avec les infirmités viennent l'inconfort et la frustration, puis la douleur physique et l'angoisse. Personne n'aime la souffrance et tous, nous faisons notre possible pour l'éviter. La souffrance existe ici-bas et comment, surtout de nos jours. Et nous sommes tout à fait conscients que nul n'est parfait. Nous ne pouvons donc pas échapper à cette réalité. C'est à ce que la Sainte Bible nous fait comprendre dans le récit de Adam et d'Ève, qui, après avoir désobéi à Dieu, furent chassés du jardin d'Éden et condamnés avec leurs descendants, et cela à une vie de souffrance. Genèse chapitre 3, versets 16 à 19. À trop évacuer la maladie et la souffrance, nous passons à côté d'un aspect important de la vieillesse. La faiblesse conduit à une vie spirituelle plus intense. Ça, c'est un fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas quand nous sommes dans le plus fort et le plus potentiel de nous-mêmes que nous avons de l'humilité. Non, c'est pas vrai. Et donc, encore une fois, notre propre souffrance, elle nous aide à comprendre celle des autres. On peut mieux comprendre les autres quand nous avons souffert nous-mêmes. Et cela, évidemment, nous aide à nous tourner vers Dieu. On peut comparer la souffrance au raffinage de l'or par le feu. Elle nous prépare à notre but ultime. Ce but est notre union à Dieu. Le théologien Quaker Thomas Kelly, dont les écrits ont influencé un bon nombre de gens dans leur recherche du Christ, il avait bien compris tout cela. Il a dit que la souffrance, elle élargit. Mais mon Dieu, quelle douleur atroce que cette souffrance qui nous prépare à comprendre celle des autres. Le dogme de la croix est donc une spéculation indolore. La croix vécue est angoisse et gloire. La croix donc, quand elle est vécue, elle apporte de l'angoisse d'un côté, mais aussi la gloire de l'autre côté. Et pourtant, voyez-vous, Dieu, suivant les desseins de son cœur, il a placé la croix sur le chemin de la sainte obéissance. Et il fait naître ainsi dans le cœur de ceux qu'il aime le miracle de la volonté d'accueillir la souffrance et de la comprendre. De la comprendre pour ce qu'elle est, le sceau ultime de son amour et de sa grâce. Voyez-vous, si la souffrance ne conduit pas à Dieu, elle conduit, hélas, au désespoir et à la tristesse. Viktor Frankl, c'est bien un nom autrichien. Donc Viktor Frankl, un psychiatre autrichien, et malgré qu'il est autrichien, parce qu'il a refusé d'aller dans l'armée de Hitler, il a passé trois années dans le camp de concentration de Auschwitz. Et là, il a découvert ce qui, à ses yeux, est le plus grand tueur d'hommes, c'est-à-dire la perte de l'espoir. Oui, la perte de l'espoir, ça tue n'importe qui. Par exemple, dans ce camp, Frankl avait remarqué qu'une personne qui perdait l'espoir ou une raison de vivre succombait assez rapidement, même si elle était bien portante. Le prisonnier qui ne croyait plus à l'avenir, à son avenir, il était hélas perdu. En perdant cette foi en l'avenir, il perdait son ancrage spirituel et se laissait ainsi dépérir moralement et physiquement. Et cela se produisait généralement assez vite et prenait la forme d'une sorte de crise morale dont les symptômes étaient familiers à ceux qui avaient une longue expérience de la vie dans le camp. Nous redoutions tous ce moment, a-t-il dit. Non pour nous-mêmes, cela aurait été inutile, mais surtout pour nos amis. Dans une même veine, on peut bien dire ainsi, le très connu Friedrich Nietzsche, il remarque que celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but peut supporter n'importe quel comment. Je répète, celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu, qui lui tient donc lieu de but, pour un but, il peut supporter n'importe quel comment. Il y a en effet beaucoup de personnes chez qui ce pourquoi manquait, vivant un enfer et ne voyant aucune issue. Ces prisonniers étaient tentés par le suicide ou par l'euthanasie ou, selon l'euphémisme communément admis, la mort, soi-disant dans la dignité. Et pourtant, quand bien même c'est la compassion qui nous motiverait, mettre un terme à une vie humaine, ça c'est pas bien, c'est un mal. Nous avons été créés chacun, chacune, à l'image de Dieu. Puisqu'il nous a donné la vie, eh bien Dieu seul a le droit d'y mettre un terme. Le suicide est donc une forme de rébellion contre Dieu. C'est une façon de dire « Mon cas est désespéré, toi Dieu, tu ne peux rien y faire. Mon problème est bien trop grand, et cela même pour toi, Dieu. » Alors le suicidé refuse d'admettre que la grâce de Dieu est beaucoup plus grande que notre faiblesse. Si nous trouvons dans une telle situation, il nous est toujours possible de chercher Dieu et d'implorer sa compassion et sa pitié, pourquoi pas. Même lorsque nous sommes au bout du rouleau, et ça nous arrive, et quel que soit notre sentiment de l'avoir trahi, Dieu veut renouveler notre espoir et notre courage. Voyez-vous, Dieu est prêt à pardonner tout péché. Je répète, pour ceux qui auraient de la peine à le croire, Dieu est prêt à pardonner tout péché, même les plus vilains. Il nous faut simplement être assez humble. C'est là le problème. Être assez humble pour le lui demander. Lorsque quelqu'un est tenté par le suicide, la chose la plus importante que nous puissions faire est de lui manifester notre amour et que nous sommes tous ici-bas pour accomplir quelque chose de positif, quelque chose qui a à faire avec la compassion et l'amour. Aider quelqu'un à traverser une période de dépression et de tentation du suicide peut faire peur. C'est vrai, ça peut faire peur. Mais, cela peut aussi être très gratifiant. Prenons par exemple l'exemple de Hugo. Hugo était un homme de assez grande stature, 1m81, travailleur, mais les épreuves qu'il avait traversées l'avaient presque anéanti. Son fils aîné s'était suicidé à l'âge de 29 ans. Hugo et sa femme avaient été ravagés par le chagrin. Et lui, Hugo, en fut tourmenté tout le reste de sa vie. Au cours de ces dernières années, Hugo souffrit de bien des maux physiques et spirituels. Par exemple, il perdit sa femme tout d'abord et il était tourmenté par la pensée du suicide et il a fait même plusieurs tentatives parce que il disait « Je n'ai pas été comme j'aurais dû être avec ma femme, j'aurais pu être un peu mieux, plus attentif. » Et tout ça, ça le travaillait tellement qu'il préférait se suicider. Hugo avait une foi, tout de même une foi profonde. Il était chrétien, né de nouveau. Ça paraît curieux, mais c'est vrai. Mais il doutait souvent de la présence de Dieu. Il doutait de la possibilité d'être pardonné pour avoir attenté à ses jours. Mais à mesure que ses forces physiques ont décliné, contrairement à ce qu'on peut penser, sa foi grandissait. Alléluia. À la fin, les prières et l'amour semblent avoir tout surmonté. Hugo est mort paisiblement à l'âge de 87 ans. Pour éviter la souffrance, on peut aller jusqu'au suicide et à l'euthanasie. Sans aller jusque-là, nous cherchons à tout prix à éviter de souffrir. Et généralement, confronté à un problème de santé, nous demandons bien sûr tout d'abord l'avis de professionnels, mais pensons-nous à nous interroger nous-mêmes. Par exemple, qu'est-ce que Dieu attend de moi vraiment? Ou encore, qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers cette épreuve? La peur d'une maladie grave ou de la mort joue certainement un rôle. J'ai connu cela plusieurs fois, vous pensez bien. Au fond de certains d'entre nous, il y a certainement plus de peur que nous osons l'admettre. Nous ne voulons pas admettre cela parce que nous sommes orgueilleux, nous sommes fiers. Nous devrions d'abord essayer de surmonter nos problèmes en nous tournant bien davantage vers Dieu, tout d'abord. Tout d'abord. Voyez-vous, le monde médical tient une place très importante dans la vie de la plupart des personnes âgées, pour le meilleur et parfois pour le pire. Car à trop médicaliser les personnes âgées, on risque de les déshumaniser et celles qui disent oui à chaque nouveau test ou à chaque nouveau diagnostic ouvre souvent une boîte de Pandore. Des problèmes sont donc identifiés qui n'en sont pas toujours vraiment. C'est-à-dire que ce sont des mots que l'on emporte dans sa tombe, mais qui n'y mènent pas toujours. Et dès lors qu'un médecin découvre l'un de ses problèmes, il est obligé de le traiter. Et c'est le début, souvent, d'une pente glissante. Car chaque test menant à un autre test, et tôt ou tard, l'une de ces interventions s'avérera fatale à la suite d'une infection, de complications post-opératoires ou d'interactions médicamenteuses. Alors nous devons nous demander si nous ne nous laissons pas leurrer par la science médicale. De nos jours, presque chaque organe de notre corps peut être remplacé ou réparé. C'est incroyable, mais vrai. Et beaucoup de bons arguments sont donc avancés en faveur de telles interventions. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps encore, les gens vivaient et mouraient sans avoir vu beaucoup de médecins. Bien sûr que leur espérance de vie était plus courte, on est d'accord avec cela, mais leur vie était fructueuse et bien remplie, peut-être plus que la nôtre aujourd'hui, va savoir. Parce que quand nous sommes, on peut dire, sous des tas d'incubation, etc., c'est pas dit que nous pouvons vraiment servir le Seigneur. Christel Kluver était institutrice en maternelle quand elle fut atteinte de sclérose en plaques. Et cela au début de la quarantaine déjà. Elle était pleine de vie et de dynamisme. Elle avait dû progressivement prendre de plus en plus de médicaments. Les drogues l'ont aidée probablement, mais elle prit conscience un jour de ce qu'elle lui ôtait, une certaine plénitude de la vie. L'un de ses soignants se souvient très bien. Lorsque j'ai commencé, c'est ce qu'il dit, cet infirmier, lorsque j'ai commencé à soigner Christelle, elle avait perdu le contrôle de toute la partie inférieure de son corps. Elle avait des spasmes, elle souffrait beaucoup. Et elle commençait à perdre la volonté de rester active mentalement et spirituellement. Avant de tomber malade, cette volonté avait pourtant été son trait de caractère le plus marquant. Les nombreux médicaments qu'elle prenait l'aidaient quant aux problèmes de fond. mais ils avaient beaucoup d'effets secondaires. Elle perdait la mémoire, ainsi que sa perception du temps et de la chronologie des événements. Elle se demanda alors, « Voyons, ai-je mis ma foi beaucoup plus dans la médecine que en Dieu ?» Alors voilà qu'elle prit la décision de diminuer tous ses médicaments, à l'exception de deux. Oh, ce ne fut pas une décision facile à prendre. Mais étonnamment, l'état de Christelle s'améliora. Elle continua évidemment à avoir des spasmes, mais ils étaient moins fréquents. Elle redevint plus éveillée, plus alerte, et sa conversation se fit plus vivante et plus riche. Nombreux étaient ceux qui priaient pour elle. Ça, c'était donc une chose importante. En plus du combat contre la maladie, elle a eu à mener bien des combats intérieurs. Jamais nous n'oublierons ce miracle de guérison qui n'était pas celui que nous avions imaginé, car malgré sa maladie, Christelle a irradié la joie et l'amour jusqu'à la fin de ses jours. Or, voici le témoignage d'un pasteur maintenant. Voici ce que dit ce pasteur. Il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose qui a ébranlé la confiance que j'avais dans la médecine et les professionnels de santé. Je me suis rendu chez le cardiologue pour une visite de routine et me suis entendu dire qu'il me fallait subir une opération chirurgicale lourde. Qui plus est, il fallait que je sois opéré de toute urgence et n'avait donc pas le temps de me préparer. Après l'opération, j'ai cru à plusieurs reprises que je ne m'en sortirais jamais, que je ne reverrais peut-être jamais ma famille et mes amis. Le personnel me permit tout de même de passer du temps avec ma femme et ce furent de très précieux moments. Pour la première fois de notre vie, nous nous sommes demandé, sommes-nous vraiment prêts à être séparés, maintenant que nous n'avons même pas atteint 60 ans? Et si nous ne devions pas nous revoir demain? Va savoir. Se demander pardon l'un l'autre, croyez-moi, fut salutaire pour notre couple et nous avons beaucoup pleuré. Heureusement, l'issue de cette opération fut tout de même positive, même si je ne m'en suis jamais vraiment complètement remis. Mais j'écoutais souvent, pendant ma convalescence, l'oratorio d'Elias de Mendelssohn, qui raconte l'histoire de l'un des grands prophètes de Dieu. Un passage me frappait tout particulièrement. Ce passage dit « Recommande ton sort à l'Éternel et mets ta confiance en lui et il agira ». Il est bien difficile de se soumettre à Dieu. Cela va contre notre nature humaine. Nous nous rébellons, oui, nous résistons, parce que se soumettre, cela signifie renoncer au contrôle de sa propre vie et de réduire à néant son pouvoir personnel. Pendant cette épreuve, je me suis souvenu du personnage de Job dans l'Ancien Testament. Job était un homme qui possédait tout, absolument tout, à quoi le monde attache de l'importance. Il avait une femme adorable, très belle, il avait des biens, il avait des enfants, il avait le succès et une bonne place dans la société. Mais Dieu permit que Job soit tenté par Satan pour voir si privé de toutes ses richesses terrestres, il continuerait d'aimer le Seigneur. Alors Job perdit absolument tout, jusqu'à la santé. Ses amis, même sa femme, commençaient à se moquer de lui et à l'encourager à maudire Dieu. C'est grave cela. Mais parce que Job continuait à louer Dieu malgré ses grandes souffrances et à se soumettre à sa volonté, eh bien tout lui fut finalement rendu, même dans une plus grande mesure. Mon cœur est toujours malade, je vous le dis, je devrais même subir une seconde opération à cœur ouvert pour remplacer, paraît-il, des valves, et peut-être pourrais-je ainsi vivre encore une dizaine d'années. Mais je ne choisirai pas cette route-là. Au lieu de cela, je travaillerai au royaume de Dieu jusqu'à ce que mes valves lâchent, et puis j'irai chanter les louanges de Dieu. Si je tente de prolonger ma vie parce que j'ai peur de mourir, qui gagnerais-je ou que gagnerais-je? Peu importe que je vive un jour de plus ou 10 années de plus, car tout doit être ordonné à la louange et à la gloire de Dieu. Chers amis, vivre avec la démence, ça, croyez-moi, c'est une très, très grande épreuve. La liberté, c'est un état. L'état de l'homme en pleine maîtrise de lui-même. L'homme n'est pas responsable lorsqu'il est en état de démence. Car il lui manque l'intelligence et la liberté. Cela a été écrit par André Gide, qui était un célèbre écrivain. Chers amis, même si les mots qui viennent avec la vieillesse commencent en général par de simples désagréments, ils prennent rapidement des proportions plus graves. Il en va parfois de même avec l'altération de nos facultés mentales, ce qui commence par de petits oublis et des moments de distraction évoluent parfois jusqu'au ravage de la démence, dont la forme la plus courante est évidemment la fameuse maladie d'Alzheimer, maladie qui est de plus en plus présente à l'esprit aujourd'hui jusqu'au cours de ces dernières années. On peut dire de plus en plus de personnes commencent à en être atteintes. Pour la plupart d'entre nous, si ce n'est pour tous, la perspective de perdre la raison est franchement terrifiante. Notre société ne sait pas comment appréhender cette maladie. Elle ferait peut-être moins peur si elle n'était pas associée à la perspective de devoir entrer un jour dans une maison de retraite. Or, les établissements spécialisés devraient ne devenir qu'un ultime recours pour ceux qui nous aiment et que nous aimons. Une maladie comme celle d'Alzheimer doit être appréhendée avec beaucoup de patience et d'amour, si possible dans un environnement familial. Oh, ce n'est pas facile, mais c'est en effet la meilleure solution. Le choix d'un service de soins de longue durée ne devrait être que en dernier ressort. De nombreuses familles n'ont pas le choix pour leurs parents malades, mais elles en ressentent de la honte, souvent de la souffrance, souvent un sentiment de culpabilité, car rien n'est simple dans de telles situations, et pourtant, même si cela paraît bien difficile, je me demande ce qui arriverait si, en tant que société, nous nous attachions plus à l'aspect positif de la maladie, le retour à l'esprit d'enfance. Car les personnes atteintes de démence ne sont pas toujours des très lourds fardeaux. Il y en a, c'est vrai, mais elles peuvent être de véritables trésors. La maladie d'Alzheimer n'est pas nécessairement un enfer pour tous ceux qu'elle touche, et la honte et la détresse ne sont pas toujours inéluctables. Voici du reste ce que écrit Geoffroy Mancret, un pasteur qui a travaillé en Allemagne auprès de patients qui sont atteints de cette maladie. Voici ce qu'il dit. Si quelqu'un veut apprendre à servir, qu'il s'occupe d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer. S'il veut apprendre la compassion, qu'il passe du temps auprès de tels malades, parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux et de plus gratifiant que de recevoir leur amour lorsqu'ils se sentent vraiment compris. Ils nous apprennent aussi à vivre pleinement dans le présent, et cela peut déjà en soi être une aventure. Ils peuvent être tristes ou énervés à un moment donné, et puis l'instant d'après, les voilà d'excellente humeur. Celui qui s'en occupe doit être prêt à répondre à la même question qui peut jaillir toutes les 2 minutes, et toujours ces personnes méritent le respect que l'on doit à tous ceux qui sont riches d'expérience et du trésor des années. Si nous croyons que leur discours est incohérent, eh bien c'est nous qui sommes stupides. C'est que nous n'avons pas la clé qui permet de pénétrer dans leur monde intérieur, souvent très riche. Seuls ceux qui trouvent cette clé peuvent voir ce qu'on appelle des fenêtres s'ouvrir, même au stade le plus développé de la maladie, il y a une fenêtre qui ouvre directement sur l'éternité. Bien sûr que c'est pas drôle du tout de s'en occuper, mais si nous avons suffisamment d'humilité, de compassion et d'amour, nous pouvons le faire. Comme le suggère Geoffroy Mancret, plutôt que de chercher à expliquer notre monde à nous, aux patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, nous devrions chercher à comprendre le sien. Certes, c'est une chose de savoir cela, mais c'est une autre de le mettre en pratique. Une personne raconte que son beau-père a eu la maladie qui se manifestait par toutes sortes de comportements étranges. Par exemple, il disparaissait parfois de chez lui. Et son auxiliaire, ça veut dire l'infirmier, partait à sa suite et tentait de le ramener chez lui, mais il était très difficile de le raisonner. Convaincu que des gens complotaient contre lui, le malade passait parfois 3 ou 4 heures à fouiller sa chambre, scrutant les placards et les dessous des meubles avec une lampe de poche à la recherche de quelqu'un qui s'y serait caché. Il avait des accès de violence parfois, même envers sa propre femme âgée, et il s'opposait à ce que son auxiliaire l'aide à faire sa toilette. Or, un jour, alors que l'aide-soignant essayait de lui donner une douche, mon beau-père, donc le malade, le frappa si violemment au visage qu'il avait le nez cassé. Durant les dernières semaines de sa vie, le malade refusait de se coucher et resté toute la nuit dans son fauteuil. Son personnel soignant essayait souvent de le persuader de ôter ses chaussures et de se coucher en vain. Désemparé de voir notre père souffrir de tels tourments et être incapable de l'aider vraiment à cause de la résistance farouche qu'il opposait, nous nous sommes tournés tous vers Dieu à genoux dans la prière. Nous ne pouvions vivre qu'une journée à la fois et nous efforcions de ne pas penser trop à l'avenir. Nous devions nous rappeler sans cesse que notre père n'était pas le père et le mari que nous avions connu autrefois, que nous avons aimé, mais que c'était quelqu'un touché par la maladie psychique comme d'autres peuvent être touchés par la maladie physique. À travers toutes ces épreuves, ma belle-mère a tenu sa promesse, la promesse de rester aux côtés de son mari jusqu'à ce que la mort les sépare. Gloire à Dieu. Jamais elle ne perdit l'espoir d'une amélioration. Sa fidélité et son espérance furent pour nous un témoignage extraordinaire. Mon beau-père mourut soudainement car il ne voulait plus de médicaments. Il refusait de s'alimenter et même de boire. Alors finalement, il tomba dans le coma et mourut. Après sa mort, les paroles de Martin Luther King résonnèrent longtemps dans notre esprit. Enfin libre, enfin libre. Dieu Tout-Puissant, merci. Il est enfin libre. Oui, chaque fois que Dieu nous fera la grâce de nous accorder une telle patience, nous y trouverons de grandes bénédictions. Nous découvrirons notamment qu'une personne qui est atteinte de démence vit dans un monde totalement différent du nôtre. C'est ce dont peut témoigner Rebecca, une amie de la famille qui a vécu une situation similaire avec son père, Joseph Domer. Je connaissais Joseph depuis longtemps. C'est ce que dit un pasteur. C'était un homme qui brillait par la finesse de son intelligence, tant en matière politique qu'en matière d'affaires ou de questions d'ordre social. Ses qualités alliées à son humour et son sens de la répartie en faisaient quelqu'un dont on recherchait volontiers la compagnie. Mais lorsqu'il fut atteint par cette terrible maladie d'Alzheimer, ce fut tant pour lui que pour son entourage un bouleversement radical. Sa fille Rebecca raconte ceci. Ce sont les premiers stades de la maladie qui furent les plus difficiles à vivre, parce que la plupart des gens niaient qu'il y avait un problème, même s'ils pouvaient avoir l'esprit très vif et même d'excellentes reparties et se souvenir de faits et de chiffres avec une exactitude irréprochable, nous avions conscience que ses facultés mentales se détérioraient rapidement. Moi et ma mère, nous étions plus proches de lui, évidemment, et nous ressentions donc cela beaucoup plus profondément. Il arrive un moment où papa a dû cesser de conduire, puis il a dû renoncer à son travail de bureau. Il craignait, plutôt nous craignions, que papa ne se sente humilié par tous ces changements, mais il les accepta heureusement, humblement. Il nous laissa, maman et moi, l'aider dans la maison, acceptant le plus souvent avec gratitude que nous lui rappelions ce qu'il avait à faire. Au lieu de se laisser gagner par l'amertume et la frustration, papa sut trouver d'autres façons d'être heureux. Qui plus est, il ne perdit jamais son sens de l'humour. Un jour, nous mangions des chocolats dont l'emballage contenait chacun un tout petit message. Et le mien, il disait, « Reposez votre esprit ». Alors papa rétorqua, « Oui, 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 si on en a un ». Oui, il passait beaucoup plus de temps maintenant avec maman. Il s'asseyait souvent dehors, sous les arbres, et là, il avait de la conversation avec quelques passants. Pendant qu'il fumait sa pipe, eh bien, maman tricotait. Il jouait avec ses petits-enfants, il leur disait des histoires. Il aimait écouter le récit de leurs aventures à la fin de la journée. Et lors des soirées d'été, la famille se rassemblait autour d'un feu de camp et nous chantions des chansons folkloriques. Il nous semblait que l'amour que papa nous portait devenait de plus en plus profond. Il s'adoucissait, se faisait beaucoup plus compatissant. Il dépendait évidemment davantage de nous, mais il appréciait notre aide. Mais surtout, il s'appuyait sur la foi profonde qu'il avait en Jésus et qui était au cœur de sa vie depuis de nombreuses années. Papa fut peu à peu dépouillé de ses capacités, il est vrai, l'une après l'autre. Je jouais également aux échecs avec lui parfois, jusqu'au moment où, là encore, le jeu devint beaucoup trop difficile à comprendre pour lui. Alors nous avons essayé le Scrabble. Cela a marché quelques jours, même si papa posait les lettres à l'envers ou de bas en haut. Or un jour, ses yeux se remplirent de larmes. « Non, non, dit-il, je ne peux plus jouer à cela. Je n'y comprends absolument plus rien. » Après la mort de maman, et à mesure que la maladie progressait, il devint de plus en plus difficile de trouver des façons d'occuper papa intelligemment. Je l'ai souvent amené pour de courtes promenades. Il était passionné de nature et il était heureux lorsque nous croisions des enfants sur notre chemin. Je l'amenais cueillir des mûres le long des routes. Tous les soirs, nous nous sommes assis pour regarder le soleil se coucher. Alors il fumait sa pipe. Il me parlait de maman, de sa quête spirituelle quand il était jeune homme et de son enfance. Je réentendais les mêmes histoires à l'infini. Mais cela m'importait très peu, car nous étions ensemble, c'est ça qui était le plus important. Il était heureux de me savoir à ses côtés. Il était attentif aux bribes de son passé qui lui revenaient parfois en mémoire. Alors il est devenu plus paisible, surtout lorsque nous l'acceptions tel qu'il était, sans essayer de lui faire aucun reproche ou de lui faire faire des choses qui ne lui étaient absolument plus possibles. Nous avons ainsi appris à accepter la réalité dans laquelle il vivait et nous avons cessé de chercher à lui faire comprendre la nôtre de réalité. Comment trouver la joie? Comment voir les bénédictions dans notre vie quand on est confronté aux questions au quotidien d'un être aimé dont la vie change de manière aussi dramatique? Comment voir les aspects positifs quand c'est surtout la confusion, la colère et parfois même la violence dont nous sommes les témoins? Johann Christoph Blumhardt, pasteur allemand du XIXe siècle, a écrit les lignes suivantes. Lorsque vous devez faire face à l'adversité, n'oubliez pas que vous devez le faire de telle manière que ce soit pas seulement une victoire pour vous-même, mais plus largement une victoire sur la souffrance en général. J'en ai fait l'expérience chez les épileptiques, chez les aveugles, les boiteux, les sourds et muets, et d'une manière générale, chez tous ceux que l'on dit incurable. Je leur dis, réjouissez-vous d'être ainsi, puis associez votre situation à la mort de Jésus et à sa résurrection. Alors, vous aurez contribué à une victoire pour le monde entier. N'ayez pas peur, même si vous avez souffert dans votre âme et avez conscience de votre grande faiblesse, le ressuscité Jésus peut inonder votre faiblesse à un point tel que vous pouvez devenir plus vivant que beaucoup de personnes fières qui, pleines de leur force et de leur richesse, vivent dans l'insouciance totale et dans l'arrogance. Lorsque vient la maladie, surtout une maladie incurable, vous pourrez trouver la paix en pensant à celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Jésus apporte une réponse à chacun de nos besoins, et Dieu le Père sait ce qu'il y a au cœur de chaque être humain, même si nous-mêmes, nous ne le savons pas. Jésus peut toujours se servir de nous, et il le fait quand bien même notre esprit et notre corps sont brisés et qui sont dépérissants. Amen. Chers amis, nous allons maintenant prier ensemble, mais j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour vous encourager et pour votre édification personnelle. Écoutez bien. Vous pouvez connaître une nuit d'affliction, mais avec le matin vient la joie. Mais les vrais vaillants, cependant, sont ceux qui préviennent le matin et qui, dans la nuit de l'affliction, vibrent déjà de cette joie sous-jacente qu'assure l'attente confiante du matin. Tournez-vous vers Jésus, vous qui habitez toute la surface de la terre, et soyez sauvés. Ésaïe 45, verset 22. Le salut n'est pas pour l'homme qui croit le mériter. C'est à tous ceux qui se tournent vers Dieu que va la promesse. Tous, assurément, peuvent se tourner vers le Seigneur et regarder. Un regard authentique suffit pour que le salut suive aussitôt. Regardez donc à Jésus et vous serez sauvés du désespoir. Oui, regardez à lui et vous serez sauvés de vos soucis. Regardez et vous serez sauvés de vos tourments. Regardez encore et vous serez pénétrés d'une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. Et vous serez revêtus d'une force vitale, toute nouvelle. Vous serez revêtus d'une joie véritablement merveilleuse. Regardez bien. Oui, regardez longuement. Le doute s'en va. La joie règne et l'espérance triomphe. La vie, oui, la vie éternelle vous est donnée. Elle vous revitalise. Elle fait toutes choses absolument nouvelles en vous. Et maintenant, nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, implorons avec espoir et confiance le secours de ta grâce et de ton Saint-Esprit, afin de pouvoir élever à toi nos cœurs et nos âmes dans des sentiments sincères de foi, de reconnaissance et d'amour. Nous te bénissons pour toutes les faveurs que tu nous cesses de nous accorder, et nous te supplions de veiller encore sur nous pendant cette journée et pendant le reste de notre vie, tu nous apprends à te chercher, à t'aimer et à te servir. Daigne amener nos âmes de plus en plus captives à l'obéissance de la croix et les pénétrer d'une espérance sans borne en ce Sauveur que tu nous as donné et par qui nous sommes préservés de ta juste colère. Oui, aide-nous, Seigneur, à penser beaucoup à toi, à notre éternelle destinée, au salut que tu nous offres en ton Fils bien-aimé. Aide-nous à venir véritablement à lui pour avoir la vie et pour trouver la paix. Nous te prions, ô Dieu, de bénir nos amis et nos familles et d'avoir pitié des affligés, des malades, de tous ceux qui souffrent et qui ont besoin particulier de ton secours. Exauce notre prière au Seigneur pour l'amour de Jésus-Christ, notre unique espérance. Amen. Et chers amis, vous le savez, Dieu vous aime. Il aime tous ceux qui ont eu le courage et l'humilité de se repentir et d'accepter sa main tendue pour être sauvés et rachetés. Oui, il vous aime et je vous aime de tout mon cœur et je vous embrasse maintenant de tout mon amour. Soyez bénis. Au revoir. Auf Wiedersehen. Arrivederci. Vaya con Dios.